Petite pointe de conversation en trio avec Marie-Lise Dionne, planificatrice numérique, accompagnée de sa collègue Marie-Lyne Lévesque, responsable des relations publiques, toutes deux chez Cossette. Bon, podcast.
Quand j'ai commencé, on était dans une boîte qui travaillait, on était le volet web de Publicis et d'OBC.
OK.
Donc, on a fait des projets.
C'était quoi le nom?
Ça s'appelait Tocom. Ils ont fermé boutique, ils sont repartis en France, deux associés français. Mais on a fait un réseau social avant le réseau social. Parce que Publicis n'avait pas le volet numérique de L'Oréal, le lancement de Fruitis, Fruitis Stack, des produits assez jeunes, produits coiffants, shampoings. On a fait ça, c'était un truc pan-canadien. Événementiel, lié au numérique, plateforme sociale. Ça, c'est... Après, en rétrospect, tu fais « Oh boy, la job qu'on a faite, c'est hallucinant ». Mais
surtout avec les moyens et la connaissance
de l'époque. Non, c'est ça. Puis tu le fais, tu t'en rends pas compte. Tu regardes après quand dans la vraie vie, le genre de ressources que ça prendrait dans une grosse agence qui est organisée, tout ça. Là, puis on faisait ça avec des bouches en ville, mais on y arrivait quand même.
Non, mais c'était avant les médias sociaux, c'était avant Facebook.
C'était en 2000... Facebook, je te dirais, ça a été vraiment 2006-2007 que ça a démarré.
Ça, commencé en 4.
Ça, c'était en 2002-2003. Il y avait les Do You Look Good. C'est beaucoup inspiré des Do You Look Good. Là, tout ça. Il y avait déjà les balbutiements sociaux. Ouais.
La femme de musique aussi, là, qui était très hot, le MySpace.
Qui était comme le Facebook avant Facebook, mais avec la musique, il y a des passants en moins, tout ça. Ouais, c'est ça. Ou c'est quoi dans le Second Life?
Je n'ai pas connu.
Les deux plus gros mois de ma vie, ça. C'est une plateforme moins social, mais en 3D.
Avec t'avais des
un avatar, tu te promenais dans ce monde-là, tu pouvais voler.
T'as quelle année, ça?
2005, à peu près.
OK. Second Life.
2004, ouais. Il y en a, c'était carrément, ils ne vivaient que ce monde-là, puis tu pouvais investir de l'argent pour aller t'acheter du linge, je parlais des cheveux d'enfants.
Tu glissais un peu vers le gaming, aussi.
Ouais, exactement.
C'était
pour dire ça, ben même aujourd'hui, on peut dire ça à des gens qui ont 22-23 ans, on a connu l'époque avant les médias sociaux.
Mm-hmm.
On est vraiment vieux.
Et curieusement, on parle encore de ça comme étant le nouveau média.
Ouais, c'est vrai que c'est
un peu compliqué. On commençait en 2000, ça vient bien à un nouveau média. T'avais sur un capital, nouveau média, tu sais quoi. Ou le multimédia aussi. J'ai entendu encore ça un peu moins.
Multimédia, ouais.
Il y a eu des périodes comme ça, multimédia, nouveau média, intégré, 360.
On parlait beaucoup de convergence.
365.
65.
Ah ouais.
Genre, chaque jour.
À chaque jour.
Quel buzzword? Moi, j'aimerais faire une maîtrise. Peut-être que ça existe. D'où viennent les buzzwords? Puis comment ça fait pour se répartir aussi vite dans le langage populaire?
Ça, c'est les planeurs numériques qui font ça.
Oui, mais les buzzwords en communication marketing aussi, quand on adopte un buzzword, ça dure 2 ans, puis tout le monde parle juste de ça, puis t'as l'air tellement brillant quand t'es blog. Je trouve ça, j'aime, je comprends.
Tu peux même savoir quel âge a la personne en fonction de...
Du buzzword. Avec
les mots qu'elle utilise, dont le fameux multimédia. Mais c'est drôle parce qu'on avait un jour, quand on était chez Oubili, on disait qu'on était expert à inventer des nouveaux mots parce que c'est des nouvelles technologies, inévitablement. Mais en même temps, c'est la nature
du métier.
Du métier, c'est sûr. Qui fait qu'à un moment donné, tu dis « OK, c'est un mix de ça, puis ça, ça doit s'appeler de même. »
Tu sais, comme les millennials, là, on entend-tu parler, là, c'est juste ça.
Ouais.
On a décidé que c'est sur eux qu'on piochait actuellement.
C'est la deuxième cohorte la plus populeuse. C'est le prochain pouvoir d'achat.
C'est le backwash de...
C'est ça, le backwash des boomers.
Ouais. C'est aussi la première de médias natifs qui fait en sorte que, encore une fois, la stratégie numérique peut prendre son sens dans la mesure où la personne comprend ce qu'ils vivent aux autres. Moi, j'ai 2 enfants, ça vit absolument pas leurs médias comme moi, j'ai 2 médias. Ça aussi, ça change la donne.
Complètement. Les nouveaux comportements, puis les comportements, ils sont démocratisés maintenant. C'est plus, tu sais, avant, c'était encore, tu t'adressais à des geeks, à des gens qui étaient pas là, à des gens, puis c'est plus vrai. Maintenant, en fait, c'est l'inverse. On passe plus de temps sur les plateformes numériques. Fait que, la réponse à ta question de est-ce que c'est nécessaire un planeur numérique, je dirais aujourd'hui plus que jamais, parce que il y a des nouvelles attitudes, il y a des nouveaux comportements, puis ça va vite aussi.
Ça fait quoi un planeur numérique?
Ça fait, le planeur numérique, c'est celui qui s'inquiète ou qui s'occupe des enjeux, des opportunités d'une marque, surtout les points de contact numériques. Si j'allais à t'écrire une définition, je te la ferais comme ça.
La job de planeur numérique, je pense, un de tes meilleurs amis, c'est le gars ou la fille de prod aussi, ou des prods, parce que...
Faut que t'aies compris ça un peu.
C'est une autre réalité, tu sais. Pas sûr qu'un planeur de marque, un planeur de campagne, il va pas forcément s'asseoir avec le monteur vidéo, tu sais.
Mais je pense que c'est une itération de cette relation-là. C'est inévitable, t'as besoin de... comme tes gens de propre vont influencer ta façon d'approcher ta TV, ton print dans une différente mesure, mais ça, cette relation-là, elle a toujours existé. Elle est peut-être plus importante, justement, à cause des ramifications techniques et technologiques. Elle est plus importante aussi à cause de la rapidité et de la complexité.
C'est un input-là, ce que je reprochais, puis ce que j'invitais mes programmeurs à faire, c'était, viens-t'en en amont, attends pas qu'on arrive avec la campagne, l'idée, parce que tu vas juste la réaliser, parce qu'elle va être moins bonne que ce qu'elle pourrait être.
Puis c'est très souvent la frustration des gens techniques. Exactement. De voir un concept arriver devant eux. Mais là, on est plus rendu dans la création et l'édition que dans la planif.
Même en planif, jusqu'à un certain point, tu as besoin de comprendre la possibilité de la...
Ah, définitivement. Si t'es pour voir les opportunités, c'est certain qu'il y a un bout de technique que tu dois comprendre.
Ça se peut-tu que le planificateur numérique, justement, devient un peu le chaînon manquant ou celui qui rassemble tout ça?
Plus ou moins. Ouais. Parce qu'il y a... puis là, ça dépend... Je pense à mon expérience depuis un an chez Cossette, qui est très différente de celle que j'ai eu chez lui, très différente de celle que j'ai eu avant.
Ouais.
On est moins... on est plus dans une planification au niveau, où est-ce qu'on est capable d'identifier les opportunités. On va inévitablement interfacer avec le média, on touche avec les médias sociaux, mais on n'arrive pas nécessairement très proche de la production. Par contre, rapidement, à partir du moment où on a cristallisé les opportunités,
ouais.
Là, on va aller travailler avec des producteurs, on va aller parler avec des gens qui sont justement plus proches des... c'est une des choses que j'essaie de faire ici, c'est rapidement, plus vite, ramener ces gens-là pour prendre l'idée qui est là, puis qu'ils ajoutent l'idée ou l'aliment, puis qu'on puisse ajouter une valeur de connaissances techniques, de connaissances d'intégration, de déploiement, ou même juste des enjeux de faire arriver ça dans un environnement client qui est différent du nôtre, parce qu'on a cette réalité-là aussi. On peut planifier, c'est pas nous qui avons toujours déployé, c'est pas nous qui avons toujours produit. Donc ça prend des gens, ça prend beaucoup de tête, en fait.
Tantôt, tu parlais du fait que, même dans l'univers numérique, ou peut-être uniquement, particulièrement dans l'univers numérique, même la notion même de planificateur numérique, elle n'est pas challengée, mais parce que les médias sociaux, parce que les médias, parce que la technologie, parce que les mobiles, etc., e-commerce, whatever, ça fait en sorte que, à un moment donné, c'est pas juste un planeur numérique, c'est plusieurs planeurs numériques.
Oui, c'est ça. Je te dirais que s'il y a une des places où planif pour planif pur, ça évolue, c'est d'être là plus en termes de, justement, d'enjeux, d'opportunités. Puis après, il faut aller s'appuyer. Il faut travailler avec...
C'est plus stratégique rendu à cette étape-là.
Plus stratégique, un peu moins tactique.
Je pense que ce poste-là, regarde ça, c'est dégoûté. C'est tout le monde est dans une stratégie numérique. Là. C'est écœurant. Mm-hmm. Je pense que c'est plus de stratégie numérique que le monde du web. Là.
Mm-hmm. Oh,
ouais.
C'est intéressant.
Ben, c'est comme dans le temps, c'était quoi? C'était les gourous des médias sociaux?
Oui, c'est ça. Il y a 6-7 ans, c'était que ça.
Tout le monde était un gourou des médias sociaux. On voit moins de gourous. Moi, je me présente toujours comme un Red Bull. Juste pour... Je vais le faire ailleurs, là, sarcastiquement, mais même encore, ça évolue.
Une campagne sociale, puis tu as été impliqué comme créatif sur une campagne de contenu, là, t'es sûr que t'es un stratège. Mais ça, c'est la réalité d'un médium qui se construit. C'est la réalité d'expertise qui se construit. Il n'y en a pas de cours pour devenir planeur numérique.
Ouais,
je pense que si tu as fait ton DSS en code marketing, tu as eu les 2-3 petits cours de numérique, puis ça te permet d'avoir une pensée intégrée, mais ça, c'est une réalité. Je suis pas la même personne aujourd'hui que j'étais quand je suis rentrée chez Ogilvy, pas parce qu'on a fait du numérique chez Ogilvy, parce que chez Ogilvy, j'ai pu toucher à la planification stratégique. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est capable de penser numérique avec, je dis souvent ici, j'ai une majeure en numérique, une mineure en planète.
Mm-hmm. Notre VP stratégie, Florence le dit souvent, quand même, la stratégie, maintenant, est devenue une partie intégrante de l'offre intégrée. Ça se dit pas, mais c'est ça qu'on veut dire.
Ouais.
Puis, tu sais, il y a le concours des strates et tout qui a vraiment pris de l'ampleur, mais il y a quelques années, puis même moi, je suis arrivée ici il y a 3 ans, puis la création n'avait pas le réflexe de faire appel à l'équipe de Florence, et elle s'est battue, là, pour que vraiment, puis là, ils sont déménagés au même étage que la création.
Parce que, justement, c'est ça, 3 ans, j'étais dans la salle, juste là, je faisais avec Florence, puis justement, elle disait, on a un problème. C'est comme, il y a personne qui compte le web, mais qu'est-ce qu'on fait? Je fais quoi? Je prends-tu un planeur, on va dire trad, là, juste pour distinguer le planeur numérique. Je mets ça ensemble, mais ça marche, ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que devrait être le rôle du planeur numérique versus
le planeur en général?
Un planeur numérique, il s'utilise juste dans le cadre de places d'entreprise où le planeur, il n'est pas numérique?
Le planeur numérique?
Oui.
Ben, écoute, je pense pas qu'un planeur de marque, parce que si ça va être un profil de marketing, communication, brand, ouais. Quand je parlais de mineur ou majeur, pour les planeurs intégrants, un profil de recherche aussi. Après, est-ce que ces gens-là se soucient de l'expérience sur le site? Est-ce que ces gens-là se soucient dans un contexte où on a un bon potentiel d'engagement? Avec une marque ou une opportunité de faire grandir cette partie-là, d'aller voir en termes de comportement numérique la cible qui est pertinente à cette marque-là, ce qui en a le potentiel d'engagement, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça. Donc, tout ce qui est d'une plus grande spécialité numérique, quand je parlais de planeurs tout à l'heure, qui sont de ce sort de contenu, on est plus dans la tactique, mais présentement, on est plus dans une dynamique de complémentarité, de spécialisation.
Ça va-tu toujours demeurer, ça?
Je pense que oui. Je pense que de plus en plus, on a besoin d'avoir des gens qui sont des spécialistes de ça. Encore une fois, selon le profil du client, ça varie énormément. Ouais. Mais j'ai l'impression, oui, j'ai l'impression que il va toujours y avoir des spécialités, puis il va en avoir une de ce côté-là.
C'est tout pour cet épisode. Pour lire l'article que j'ai écrit à ce sujet dans le Grenier Mag du 28 mars, téléchargez l'application iPad sur le App Store. Et si ça vous tente, poursuivons la conversation sur Twitter en utilisant le hashtag GrenierMag et mon identifiant Twitter, Pizza4All. À la prochaine!